Écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter au 145 rue Amelot à la librairie Publico, émission Démo, une voix dans le 11e arrondissement à Paris, où vous pouvez prendre la carte d'auditeur ou voir sur Internet, si vous voulez faire un virement pour vous nous aider, car nous sommes une radio sans publicité, une radio libre. Ces présentations faites, je vais vous dire que ce mois-ci, nous recevons le philosophe Paul Audy pour Troublante Identité, sorti aux éditions Stock, et le peintre Jean-Baptiste Sécheret, pour son livre « Peinture et dessin à l'heure exacte », avec un texte de Benjamin Oliven, sorti aux éditions Les Cahiers Dessinés. Nous ferons la première partie d'émission avec Paul Audy, puis la seconde avec Jean-Baptiste Sécheret. Paul Audy, bonjour.
Bonjour Thierry.
Jean-Baptiste Sécheret, bonjour.
Bonjour, bonjour Thierry.
Paul Audy, les éléments biographiques ont en partie été trouvés sur Internet, donc vous me direz s'il y a des erreurs. Paul Audy, vous êtes né en 1963 à Beyrouth, au Liban.
Exactement.
Dans quel milieu avez-vous grandi?
Oui, vous voulez que je vous réponde?
Voilà.
J'ai grandi dans un milieu bourgeois. Voilà, j'ai passé 10 ans de ma vie au Liban, entre 0 et 11 ans. Et j'étais scolarisé au lycée français. Et je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans, de manière définitive.
Est-ce que vous le saviez?
Que ce serait définitif?
Oui.
Je l'ai su très vite. Je l'ai su très vite parce que de toute façon, j'avais été préparé à ça. D'une certaine façon, ma mère nous avait dit « vous serez de passage dans ce pays ». Donc, attendez-vous à vous retrouver en France. Elle avait tout fait pour que nous arrivions en France. Nous sommes arrivés un peu plus tôt, mais mes parents avaient acheté une maison en Normandie et nous passions les 3 mois de l'été en Normandie entre 1972 et 1975. En 1975, la guerre civile a éclaté au Liban et nous sommes venus comme nous venions chaque été, mais nous sommes restés. J'ai été scolarisé d'abord en Normandie, puis ensuite à Paris, et je n'ai plus jamais quitté ce pays.
Je vais reprendre ces points. Aviez-vous accès à des livres, enfants, lesquels que lisiez-vous lors de votre toute jeunesse?
Alors oui, j'avais accès aux livres qu'on lit quand on a 6, 7, 8 ans. J'ai dévoré Le Clan des Sept, j'ai dévoré Le Club des Cinq. J'avais une passion pour Fantomètre. Ça a beaucoup compté pour moi, mais c'est pas ça qui m'a fait aimer la littérature. Ça m'a fait aimer l'aventure, je dirais.
Puis ça vous a fait lire aussi déjà au
soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai encore le souvenir assez vague que lorsque je terminais un livre, j'avais le sentiment du devoir accompli. Je disais, ah oui, voilà, un livre de fini. Et j'en étais ravi, évidemment. Puis ensuite, dans la bibliothèque de mes parents, je prenais des livres et j'ai lu de la poésie. Alors, je me souviens qu'à l'âge de 9-10 ans, je lisais beaucoup Victor Hugo.
Ah ouais, ouais. C'est rare si jeune.
Ouais, oui, mais parce que j'étais absolument fasciné par la musique, des vers d'Hugo, mais j'étais aussi fasciné par l'épopée. J'ai lu L'Expiation, ça a été vraiment un grand moment pour moi. Je l'ai lu et relu. Je le lisais d'ailleurs à mes amis. J'arrivais à l'école et j'avais le texte dans une édition de poche et j'aimais beaucoup beaucoup lire ce texte en public. Ouais. Bon, voilà, ça a commencé comme ça.
Quels souvenirs lors de cette jeunesse avez-vous ? Vous m'avez, lors d'une conversation privée, dit qu'il vous en restait des attachements culinaires, par exemple.
Oui, c'est vrai. J'ai toujours été un grand amateur de la cuisine libanaise. Je crois qu'elle est très appréciée un peu partout dans le monde. Je l'aime encore. J'ai un peu de mal à la manger parce que je suis allergique à l'ail et il y a très souvent de l'ail, donc je ne la mange pas aussi universellement que je le souhaiterais, mais voilà. Et curieusement, puisque vous parlez de souvenirs, je peux vous dire que je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Lorsque je suis arrivé à 11 ans, lorsque la coupure très nette s'est faite entre mon enfance et ces années d'adolescence, j'ai perdu tous mes souvenirs d'enfance. Ça a été pour moi une chose assez douloureuse plus tard, parce que j'aurais bien aimé retrouver quelques sensations. Comme je n'ai plus remis les pieds au Liban pendant 20 ans après, plus rien ne me rappelait les grands moments que j'avais vécu là-bas. Alors, il me reste quelques souvenirs, évidemment. Et ce que je pensais, c'est qu'en y retournant, peut-être certains souvenirs remonteraient à la surface.
Mais les lieux, par exemple.
Oui, les lieux, mais les lieux étaient très souvent vagues. Je ne les avais pas mémorisés suffisamment nettement, et voilà. C'est cette absence de mémoire qui est liée en fait à la prime enfance est une chose qui peut être vécue comme un handicap. Et c'est un handicap qui m'a empêché en fait d'avoir une imagination débordante. Je ne l'ai pas. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas devenu romancier, parce que j'aurais voulu l'être. Lorsque j'avais 16 ans, 17 ans, je me suis épris de la littérature, mais je n'ai pas pu le faire, en fait, parce que je n'arrive pas à puiser dans cette mémoire originelle. Et je crois que c'est très important pour que l'imagination fonctionne.
Le mois dernier, j'ai reçu Tristan Félix, qui a passé ses 6 premières années au Sénégal, et elle a carrément aucun souvenir de ses 6 premières années.
Oui.
Alors après l'arrivée en France, elle aurait pu se souvenir de ça, quoi. Rien du tout aussi.
Oui, ce sont des effets qui sont souvent dus en fait au déplacement, à la réinstallation dans un autre lieu, à l'invention d'une vie nouvelle, et c'est presque un système de défense. Pour ne pas être nostalgique, pour ne pas regretter, il y a quelque chose qui se produit dans la mémoire et qui empêche de susciter des sentiments douloureux.
Lors de votre arrivée en France, vous êtes fraîchement accueilli, vous semble-t-il. Du moins, c'est un mot que prononce un de vos professeurs qui provoque ce sentiment en vous, vous cataloguant dans une identité à laquelle vous avez du mal à coller. Pouvez-vous nous expliquer cela ?
Vous voulez que je vous raconte l'épisode ?
Vous le racontez dans le livre.
Oui, bien sûr. Non, mais je peux le raconter à nouveau, bien sûr. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été donc scolarisé dans un collège en Normandie, où j'ai passé 3 mois, et ça ne s'est pas bien passé. D'abord, je ne savais pas trop ce que je faisais là. Mais surtout, et mes camarades de classe et les professeurs ne savaient pas non plus ce que je faisais là. Donc c'était assez étrange. J'ai été scolarisé de manière assez abrupte, parce que en fait, j'ai été inscrit à ce lycée peut-être 2-3 jours avant la rentrée scolaire, et donc je me suis retrouvé là. Et le professeur, le premier professeur, a voulu très gentiment me présenter à la classe. Et donc, quand il m'a présenté à la classe, il a dit « Voilà, vous avez un jeune camarade qui est là et qui vient d'un autre pays, qui vient d'un pays arabe. » Alors, c'est très curieux pour moi, parce que le mot arabe, je l'ai entendu à ce moment-là presque pour la première fois. Alors qu'effectivement, je viens d'un pays qui se considère lui-même arabe, où la langue pratiquée, la langue officielle est la langue arabe. Et pour autant, dans mon éducation, je n'ai pas reçu cette conviction que nous étions arabes. Alors, je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, donc je dois le dire. Je ne parle pas la langue arabe, donc je ne me sens pas tout à fait concerné, mais enfin, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc au sens où je savais, pour avoir déjà vécu en France 3 mois chaque année, donc un quart de l'année, je savais que ce mot était quand même un mot qui avait certaines connotations, surtout que nous étions dans les années 70. Il y avait deux phénomènes qui collaient en fait à la signification du mot arabe. Le premier phénomène est très lié à la guerre d'Algérie, évidemment, mais le deuxième phénomène était les travailleurs immigrés. Je me suis retrouvé dans le regard des autres, à la fois assimilé à quelque chose dont je n'avais aucune idée, à savoir la guerre d'Algérie, puisque le Liban et l'Algérie, c'est même pas le même continent, et puis il n'y a pas d'histoire coloniale au Liban.
Il y a quand même l'Angleterre et la France a quand même été présents, quoi.
Oui, mais ce n'est pas une colonisation. C'est un mandat, il y a un mandat qui est arrivé au moment où l'Empire ottoman est tombé, mais ce mandat avait eu une mission très particulière, c'était de constituer un État. Donc ce n'est pas du tout... Le Libanais ne sait pas ce que c'est que la colonisation européenne. Et puis, le travailleur immigré, si vous voulez, nous n'étions pas immigrés pour des raisons économiques. Nous avions décidé de nous installer en France parce qu'il n'y avait plus d'école au Liban, puisque la guerre faisait rage, et que, voilà, c'était pour des raisons de refuge, si vous voulez. Et donc, je me suis retrouvé pris dans une interprétation venant de l'autre qui ne collait pas du tout à ma réalité. Et ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire que cette scène est une scène primitive, une sorte de scène initiatique où je me suis retrouvé dans la peau d'un autre, à devoir adhérer à cette peau, mais à ne pas pouvoir me reconnaître dans ce que les autres disaient de moi. Et ce décalage ne m'a pas quitté depuis.
Ben vous dites que quand vous êtes arrivé à Paris, là, vous avez été mieux reçu par un Corse. Vous racontez ça aussi.
Alors, après ces 3 mois dans ce collège, mes parents ont décidé de venir à Paris, ils ont loué un appartement, et puis on s'est installé. J'ai été donc scolarisé à Paris, et à la rentrée du mois de janvier, je me suis rendu compte que tout était différent. Et alors, à la récré de 10 heures, le premier jour, je vois un gars qui s'avance vers moi et qui me dit « Eh ben Paul, puisque tu es nouveau, moi je rentre déjeuner chez moi, si tu veux venir, tu es le bienvenu. » Alors, rien que de me dire « tu es le bienvenu », ça a été pour moi quelque chose de merveilleux. Et j'ai voulu lui rendre hommage dans ce livre parce que c'est un souvenir qui est marquant pour moi. C'était un bienvenu beaucoup plus général. C'était pas simplement bienvenue chez moi. C'était au fond tu es chez toi, voilà. Et on va partager ce qu'on peut partager. Et de ce point de vue-là, je dois reconnaître qu'il m'a fait gagner des mois, il m'a fait gagner des années, rien que par cette invitation. Alors il était corse, c'est vrai. Il était corse.
Oui,
il est corse.
C'est ce que vous marquez.
Oui.
Bon, alors nous allons peut-être mettre un petit morceau de musique. Vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo-une-voix@gmail.com. Musique, Erwan. Thank you. Bonjour, vous écoutez l'émission Démo, une voix sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, de Thierry avec Erwan à la réalisation. Nous recevons ce mois-ci Paul Audi en première partie d'émission et Jean-Baptiste Sécheret en deuxième partie d'émission. Nous sommes dans les questions d'ordre général avec Paul Audi. Nous allons continuer. Quand en découvrant un livre, on découvre un monde. Quel livre vous avez-vous découvert lors de votre adolescence ? Était tout de suite de la philosophie ou bien de la littérature ou les deux ?
Non, ça a été de la littérature. La philosophie est arrivée dans ma vie beaucoup plus tard. Beaucoup, beaucoup plus tard. En fait, lorsque j'ai fait même des études littéraires au départ, j'ai fait une hippocagne et je me destinais en fait à faire une carrière de professeur de littérature. Et ce n'est qu'en Cagne que j'ai découvert la philosophie. Et c'est elle qui m'a ouvert les bras, donc j'y suis allé. Mais la philosophie, je l'ai découvert vraiment sur le tard.
Et par rapport au problème d'identité, est-ce qu'il y a un rapport ?
Alors, il y a un rapport. Il y a un rapport, c'est un rapport... Enfin, il faudrait qu'on parle d'abord du problème de l'identité d'abord, ouais. pour que je réponde à cette question. Mais il se trouve, si vous voulez, que la philosophie, c'est une langue dans la langue. C'est un idiome particulier. C'est un discours qui a ses codes et qui a sa terminologie. Et cette terminologie n'est pas forcément reliée à une origine, à une appartenance. Donc c'est en ce sens-là que la philosophie permet de ne pas situer identitairement le philosophe tout de suite. Évidemment, quand on connaît sa philosophie, on peut rentrer dans les arcanes de sa pensée et puis découvrir certains traits, traits d'identité. Mais la langue philosophique ne porte pas en elle-même le sceau d'une appartenance particulière.
Et c'était pas une manière.
Et c'est très rafraîchissant.
C'était pas une manière, justement, si vous abordiez pas la littérature. Que je pense vous aborder dans ce livre-là pour la première fois. Si vous abordez pas la littérature, vous plongeant dans la philosophie, vous éloignez le problème de l'identité.
Oui, c'est ça.
Vous alliez dans un endroit plus neutre.
Exactement. C'est un endroit qui, en apparence du moins, est beaucoup plus neutre. Et puis, si vous voulez, il y aura toujours. Une sorte de hiatus entre la pensée et le langage. Le philosophe, justement, parcourt en permanence cet écart entre la pensée et le langage, puisqu'il a besoin du langage pour exprimer sa pensée. Mais sa pensée, en quelque sorte, se modifie aussi au contact du langage. Et dans cette différence entre les deux, il se joue pour la philosophie une partie très serrée. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, les grands philosophes sont aussi de grands écrivains. Parce qu'ils inventent une phrase, une sorte de phrasé particulier dans lequel la pensée elle-même s'exprime. Si vous lisez, pour parler des grands philosophes de la tradition, les grands philosophes allemands, par exemple, vous verrez que la langue de Kant, par exemple, n'est pas du tout celle de Hegel. Ce sont deux langues complètement différentes. Et l'importance, c'est de l'un et de l'autre, c'est à la fois leur pensée et le langage qu'ils ont inventé.
De la Normandie, d'où vous êtes arrivé à Paris, quelle étude avez-vous poursuivi ? Vous venez de nous le dire. Dans le livre dont nous allons parler, vous dites que ces études vous ont encore plus arrimé, entre guillemets, parce que c'est moi qui prononce le mot, à la France. Est-ce exact ?
Mes études ?
Oui.
Enfin, c'est-à-dire que... Comme je le dis dans le livre, ce que j'essaie d'analyser, c'est ce que j'appelle le syndrome du naturalisé. Le syndrome du naturalisé, c'est quelqu'un qui se retrouve dans une situation où une deuxième chance lui est donnée. Il a vécu dans un premier pays et d'un coup, il est résident d'un autre pays dont il acquiert la nationalité. En quelque sorte, c'est comme si il soit il changeait de jeu, de carte, soit il rebattait ses cartes pour jouer une nouvelle partie. Dans mon cas, cette naturalisation, elle a été vécue sur le mode du sauvetage. Donc, j'ai ressenti un sentiment de dette et de gratitude vis-à-vis de cette mère adoptive qu'est la France. Et donc, très vite, et c'est ça ce que j'appelle le syndrome du naturalisé, que j'ai vu par exemple à l'œuvre chez un auteur comme Romain Gary, c'est que on cherche en permanence à apporter des preuves de sa bonne francité. On veut absolument remplir toutes les cases qui correspondent justement à ce que c'est que d'être français, parce que on espère que on sera reconnu comme tel. Et dans mon cas, j'ai fait des études qui sont particulièrement françaises. J'ai fait l'école normale supérieure, l'agrégation de philosophie. Ce sont des choses qu'on ne trouve qu'en France, et je m'en suis senti très bien d'ailleurs.
Nous allons parler de Troublante identité aux éditions Stock, paru en 2022 dans la collection Grise de vous, Paul Audy. Paul Audy, c'est un livre de réflexion et non exclusivement de philosophie que vous nous présentez en cette rentrée. Ce sont en quelque sorte vos confessions. Non, c'est comme une petite bifurcation.
C'est vrai que c'est une très grosse bifurcation, Thierry. D'abord, c'est la première fois que j'écris un livre à la première personne du singulier. Et puis, c'est un livre qui m'expose, si vous voulez, qui expose certains moments de ma vie et certaines réflexions qui sont liées à ma destinée. Donc oui, effectivement.
Pour toi, pourquoi ce titre? On le comprend lors de sa lecture.
Alors, d'abord, Troublante, c'est bien parce que j'ai été troublé par ces appartenances diverses, appartenance libanaise, appartenance française. Tout ça, ça m'a profondément troublé, au sens où ça a parasité et ça m'a parfois paralysé dans mes rapports sociaux. Mais ce que je découvre avec le mot troublante, c'est que c'est la consistance même de l'identité. L'identité, ça vous colle dessus. Et c'est visqueux, en fait. C'est visqueux, ça vous colle à la peau, on vous reconnaît à travers ça, et vous avez beau vouloir l'arracher, mais comme une matière molle, gluante, elle vous colle encore. C'est-à-dire que vous n'arrivez jamais à vous détacher de cette identité. Elle fait corps avec vous-même, alors que vous savez que vous êtes toujours plus que cette identité ou que cette vignette que l'on a collée sur vous. Vous serez toujours plus que ça. Donc, en ce sens-là, il y a quelque chose de troublant et de troublé qui va jusqu'au visqueux dans l'identité que nous avons.
Et c'est la souveraineté que vous pouvez acquérir à la fin de cette analyse que vous faites. Vous parlez de souveraineté.
Oui, alors c'est un mot qui compte beaucoup pour moi. Je le prends dans le sens de Georges Bataille. La souveraineté, c'est la revendication absolue de la liberté personnelle. Ça n'a rien à voir avec un complexe de supériorité, par exemple. Mais la souveraineté, c'est pouvoir être maître de sa propre liberté. ne pas accepter un ordre de soumission, quel qu'il soit. Alors, je crois que ça va bien à la radio où nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Exactement. Nous ne sommes pas pour avoir des pouvoirs au-dessus de nous, quels qu'ils soient.
Voilà.
Nous sommes même contre la notion de pouvoir, quoi.
Oui.
Nous voulons l'égalité totale entre les êtres, quels qu'ils soient.
Ben, la souveraineté, justement, s'accommode très bien avec la notion d'égalité, contrairement à ce qu'on imagine. Oui.
D'abord, l'on apprend que vous êtes né à Beyrouth, alors que seuls vos proches le savaient. Vous cachez votre origine. Pourquoi ? Et c'est l'objet de ce livre.
Ben oui, parce que dans ma névrose, si vous voulez, parce que c'est une véritable névrose, j'ai voulu ne pas donner le sentiment que j'étais français partiellement, à moitié, un quart, trois quarts. Je voulais l'être totalement, parce que c'était la condition de l'acceptation des autres, c'était ma manière de m'insérer dans un tissu social qui n'était pas le mien à l'origine, et donc je ne voulais absolument pas raconter mon enfance, je ne voulais absolument pas dire d'où je venais. Et je conçois très bien que l'on puisse trouver ça absolument absurde, mais je le verse au compte de ma névrose ou
oui, parce que
de manière obsessionnelle, je ne voulais pas.
C'est comme ça, les, on peut pas changer ce qu'il y a, quoi.
Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'emploie cette nomenclature pathologique, mais parce que c'est une manière de vouloir récuser le réel alors que le réel est là et qu'on n'a qu'une seule possibilité vis-à-vis de lui, c'est de faire avec lui.
Alors je vais prendre des extraits du livre et après je poserai une question. Et comme ça, je pense qu'on arrivera à voir à peu près ce qu'est le livre. Je vais lire page 47. Non que je n'eusse pas, en italique, assez aimé le Liban pour qu'il pût me répugner. Mais la cause, à vrai dire, est ailleurs. Le fameux cette histoire, c'est la honte. Et page 48... Mais j'ai beaucoup plus honte de ce que les Libanais, non individuellement, mais sur le seul plan de leur être collectif en italique, se sont fait et se font encore à eux-mêmes en se laissant martyriser et vampiriser par le premier venu. Et j'ai honte de ce qu'ils font aussi collectivement aux autres, comme ils le font tout d'abord à eux-mêmes. Seulement voilà, au-delà de la honte de cette réalité sociopolitique que cette réalité sociopolitique m'inspire, c'est de moi surtout que j'ai honte. La honte, Paul Audy, est-ce le moteur qui vous a poussé à parler cette question d'identité ?
Oui, absolument. C'est le moteur. Et si c'est le moteur, ça veut dire que la honte s'est redoublée. J'ai eu honte de ma honte. J'ai eu honte de ma honte. Et c'est parce que j'ai eu honte de ma honte que j'ai essayé de la désigner dans ses origines, dans ses raisons, dans ses folies aussi. Cette honte qui ne m'a pas quitté. Mais ce n'est pas une honte au sens où... j'aurais renié mes origines. Non, je les ai jamais reniées. Mais je voulais récuser ma réduction aux origines. Et c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que tout ce que j'essayais d'être allait au-delà de ce d'où je venais. J'étais devenu quelqu'un qui n'était pas totalement... totalement compréhensible par ses origines. Et lorsqu'on me réduisait à cette provenance, ça me remplissait de honte parce que ce n'était pas moi-même. J'étais presque pris dans un regard qui regardait quelqu'un d'autre et qui m'imputait une identité en particulier dans laquelle je ne me reconnaissais pas totalement. Et la honte, elle vient de ce phénomène réductionniste. Quand on réduit quelqu'un à une part de son être. Et donc, c'est une honte qui est mêlée de colère, qui rue un peu dans les brancards. Et au bout d'un certain temps, si vous voulez, j'ai renoncé à vouloir rectifier le jugement d'autrui. J'ai simplement tué tout ce qui pouvait amener l'autre à me réduire à un passé auquel je n'avais absolument plus accès.
Page 52, on trouve l'expression « passé, virgule, muscade » pour l'exclamation. Alors, je ne la connais pas. J'aurais pu regarder dans le dictionnaire. Hein, mais je préfère vous la demander. Qu'est-ce que ça veut dire, passé, muscade ?
Ah, bah, passé, muscade, c'est une expression qui veut dire qu'on est passé entre des chicanes, on est passé entre des obstacles et l'on ne s'est pas fait repérer.
Voilà, vous connaissiez Jean-Baptiste ?
Oui.
Oh, je suis nul alors.
Non, non, mais
je connais pas mes
ça
classiques.
Ça doit être dans les Trois Mousquetaires. Ouais. Ouais.
Alors après, je vais lire page 145. 145, j'y arrive, j'ai le livre devant moi, je suis en train de tourner les pages. D'une part, avoir honte, c'est se sentir, en italique, honteux de quelque chose. D'autre part, l'on ne se sent honteux de quelque chose que sous le regard d'un autre. Ainsi, la honte est-elle tout d'abord un sentiment de soi, mais elle n'est pas que cela, car si le honteux a bien honte de quelque chose, il y faut logiquement avoir affaire à un objet. Or, c'est l'objet de sa honte, est un sujet, puisque cet objet, c'est soi-même. C'est toujours de moi, de ce que je suis, que j'ai honte en effet. Vous avez donc honte, non pas en général, mais de moi, de ce que je suis. La honte peut-elle être réflexive ?
Elle est toujours réflexive. Elle est toujours réflexive. C'est-à-dire que avoir honte de quelque chose, ça a un rapport direct avec celui qui a honte. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on se cache d'avoir honte. Parce que justement, personne ne va exposer sa honte devant les autres. Il est déjà honteux. Alors, la honte fait honte. C'est la particularité de la honte. Elle-même fait honte. Et donc, elle est de l'ordre du secret. On ne la dévoile pas, on se dissimule quand on a honte. Mais ce qui m'a intéressé en explorant un tout petit peu ma propre histoire, c'est que cette honte s'est muée en une haine de soi. Donc je parle un peu des phénomènes de honte, mais je parle surtout de la haine de soi. C'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir s'affirmer, de ne plus pouvoir s'affirmer dans la totalité de ce qu'on est, d'être en proie à une sorte d'économie du secret qui rend la vie impossible. Alors pour l'expliquer, comme je fais d'ailleurs tout au long du livre, je prends des exemples dans la littérature ou dans le cinéma. Et là, j'ai pris l'exemple d'un personnage d'un roman de Philip Roth qui s'appelle « J'ai épousé un communiste », qui est un très très grand roman, dans lequel il y a un personnage, une femme, qui est comédienne et qui a toujours caché ses origines juives parce qu'elle en avait honte et qu'elle ne voulait absolument pas les révéler. Philip Roth analyse cette haine de soi dans des termes extrêmement bien choisis qui m'ont aidé en fait à comprendre où j'en étais moi-même avec ce même problème des origines. J'ai compris à quel point la honte avait conduit à la haine de soi et comment cette haine de soi se fonder sur un sentiment de désespoir profond. Le désespoir, c'est n'avoir aucun espoir d'être un autre que soi-même, d'être constamment acculé à être celui qu'on est, et de ne pas pouvoir trouver même une sorte de respiration dans cet être acculé à soi. Ce sont ces trois phénomènes psychologiques, honte, haine de soi et désespoir, que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, à l'aide, encore une fois, non pas de théorie psychologique, mais avec ce que la littérature et le cinéma m'avaient apporté en termes d'autocompréhension.
Je vais justement nous dire comment il est construit, le livre.
Alors, il est construit par une sorte de protestation première à l'endroit de la réduction identitaire, quand on vous réduit à une identité qui sera toujours réductrice par rapport à ce que vous êtes.
Il y a aussi une notion de fichage, de flicage.
Oui,
il y a des phrases là-dessus.
Oui, oui. Alors,
vous avez une carte d'identité, vous n'avez pas tout ça, quoi.
Ben oui, je suis très sensible à ces signes de fixation identitaire. La carte d'identité, effectivement, elle comporte un certain nombre d'éléments. La taille, les yeux bleus, le lieu de naissance, ce sont des éléments qui sont en eux-mêmes qui ne servent qu'à vous identifier de manière purement extérieure, mais qui ne disent rien de ce que vous êtes, absolument rien. Et donc, c'est à travers la carte d'identité que l'on s'aperçoit à quel point un être humain a une individualité, une singularité qui dépasse de beaucoup l'ensemble des traits particuliers mais qui forment son identité. Une identité, au fond, c'est quoi ? C'est fait de traits particuliers. Mais ces traits particuliers qui vous donnent votre identité sont des traits partagés par d'autres. Ce sont des différences communes. Par exemple, un de vos traits identitaires, c'est que vous êtes blanc. Bon. Mais vous n'êtes pas le seul blanc, évidemment. Bon. C'est une particularité que vous avez, mais cette particularité, en fait, elle est partagée par tout le monde. Elle ne va absolument pas renseigner quiconque sur votre singularité, en revanche. Parce que votre singularité, c'est précisément quelque chose qui est incomparable, que l'on ne trouve pas chez un autre. Et c'est ça qui vous rend précisément singulier. Bon, et donc, on s'aperçoit de la différence qu'il y a entre l'identité et la singularité. Or, toute ma vie, ça a été une sorte de négation de ma singularité au profit d'une identité qui était juste une sorte de fiche signalétique de moi-même que les autres pouvaient avoir. Et donc, ce livre est construit sur cette protestation très importante, très forte, entre la réduction identitaire et l'affirmation d'une singularité. Et l'affirmation d'une singularité, elle passe évidemment par une construction, par un devenir, par une histoire, par ce qu'on a fait, en fait, de son identité. Ce livre, si vous voulez, essaye de montrer le parcours aussi psychologique, psychique même, entre celui qui part de la souffrance de la réduction identitaire et qui, progressivement, au fur et à mesure que le livre se développe, affirme une singularité qui le sauve du regard des autres et du jugement des autres.
Alors, une dernière question, parce que je vois on a déjà un peu dépassé. Laquelle je choisis ? On a choisi celle-là. Vous dites, Le Liban est une chose morte, entre guillemets, je mets chose morte pour moi. Quand ce sentiment vous est-il venu et pouvez-vous nous l'expliquer?
Bah, écoutez, d'abord,
c'est pas dès le début, ça.
Bah, c'est assez vite. Bah, écoutez, c'est un pays qui s'est suicidé, qui s'est sabordé. C'est un pays qui a réduit toute une population à un état de souffrance quotidienne qui est extrêmement difficile. Et lorsque je parle du pays, en fait, je parle de l'État libanais. L'État libanais qui est aux mains de mafias qui font la pluie et le beau temps et qui tyrannisent toute une population qui n'en peut plus. Donc c'est en ce sens-là que le Liban que j'ai pu connaître dans mon enfance n'existe plus aujourd'hui. C'est un pays qui est ravagé par la mainmise de clans, de gangs, de brigands. Et ce pays a peine à exister. Et pour le coup, si vous voulez, n'a pas encore conquis sa pleine souveraineté.
Pour faire la liaison avec le peintre Jean-Baptiste Sécheret, que nous allons inviter en deuxième partie d'émission, il y a quelque chose que j'aimerais, mais je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que vous pourriez nous rappeler des rapports entre photographie et peinture de Jean-Baptiste que vous avez vu dans une galerie il y a quelques années sur New York et engager le débat avec Jean-Baptiste comme une fois on l'a fait en privé?
Alors très volontiers, parce que ça me donne l'occasion de rendre hommage à la peinture de Jean-Baptiste Sécheret. C'est une peinture importante. C'est une peinture importante parce que elle arrive à un moment de l'histoire où d'abord la peinture a vraiment du mal à exister comme telle pour elle-même. Aujourd'hui, l'art contemporain, qui est une nomenclature dont on pourrait parler, mais qui n'a rien à voir avec l'œuvre de Jean-Baptiste Sécheret,
produit... Qui a presque rejeté la beauté.
Oui,
enfin, il faut le dire.
Produit
presque,
surtout...
Presque, je dis bien presque, il y a des exceptions.
Oui, mais...
Elle a presque rejeté la beauté.
Oui, oui, oui. Enfin, la beauté est un des éléments très importants de l'œuvre poursuivie par Jean-Baptiste Sécheret, mais ce n'est pas le seul élément de sa peinture. Elle n'est pas là uniquement pour produire ou pour refléter la beauté du monde, mais elle est là aussi en tant que peinture. Et c'est cette affirmation qui est forte et qu'il faut souligner. Pour cela, l'œuvre de Jean-Baptiste Sécheret joue sur un paradoxe tout à fait singulier. Par la netteté de la représentation picturale, il pourrait laisser croire que son œuvre est une œuvre qui repose sur une première fixation photographique. Comme si, au fond, il faisait des tableaux à partir de photos. C'est ce que la plus grande majorité des peintres font aujourd'hui. Hein. Ça, c'est évident. Mais chez lui, singulièrement, il y a comme une sorte d'effet d'ironie par rapport à ce que le spectateur apporte comme savoir devant son tableau. C'est-à-dire que le spectateur va penser quelque chose qui n'a rien à voir avec le tableau qu'il voit. Et ce tableau, à force de le contempler, à force de le regarder, vous indique à quel point il est éloigné de la photographie. Et que la photographie n'est pas du tout le problème de la peinture, que le problème de la peinture, c'est la peinture elle-même, et que c'est ça absolument que le regardeur découvre au fur et à mesure, le temps qu'il passe devant la toile de Jean-Baptiste Sécheret est un temps qui sert notamment à découvrir évidemment le tableau, mais à éloigner au plus loin l'idée d'une mimésis photographique, donc d'une pure ressemblance photographique. Il n'est absolument pas question de ça dans sa peinture.
Quel est votre point de vue là-dessus, Jean-Baptiste, sur ce qu'a dit Paul?
D'abord, pour moi, c'est un peu un cadeau de Noël, avant Noël, d'entendre Paul Audy utiliser ces termes-là. Effectivement, c'est le temps, mais c'est tellement bien dit comme ça que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis juste confus et un peu gêné, donc je rentre sous la table. donc, merci beaucoup pour ce cadeau, Paul.
Par exemple, des photos, comment vous traitez la photo? La
photo,
peinture
je sais pas, la photo, on s'assoit dessus. Enfin, personnellement, je m'assois dessus. Ça a été un problème pour beaucoup, et puis pour le public aussi qui regarde la peinture. Comme ne devant plus représenter. Donc, il y a une séparation entre, pour un public un peu confus, entre l'intérêt de continuer à faire de la peinture, puisque la photo est là. Mais il y a une marge de. Enfin, il y a une grande population de peintres qui n'ont cessé de continuer à en faire, de cette bonne vieille peinture, en douce, en loose day, comme ça, chez soi, sans acquérir une notoriété, puisque les pouvoirs publics sont aussi confus que le public lui-même. Enfin, voilà, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Les informations que les gens peuvent avoir sur la peinture viennent évidemment des galeries, des musées. Donc, ce qu'on voit dans les musées entretient justement une confusion. Mais la photo, beaucoup s'en sont servis. Courbet s'en est servi, Cézanne s'en est servi. Ça reste un tout petit élément qui peut permettre une documentation, mais ça reste quand il s'agit de peindre d'après photo, c'est d'une pauvreté insensée, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre chose que ce que le cliché vous apporte. Quand vous êtes sur place et que vous vous posez les mêmes questions, vous avez toujours une solution, toujours se présente à vous une solution qui va vous permettre de continuer à travailler, ne serait-ce qu'un arbre qui bouge et un peuplier qui bouge dans le vent. C'est plus intéressant que le peuplier fixe. Faire poser quelqu'un devant soi, c'est beaucoup plus touchant et déjà pour comme expérience, mais c'est beaucoup plus riche que d'avoir la photo de la personne. Donc quand quelqu'un me demande « Ah, vous faites des portraits formidables, je pourrais vous donner une photo de ma vieille tante, etc. » Ça m'est arrivé il y a longtemps. Je suis navré, mais je dis que non, enfin, c'est un peu compliqué. Voilà.
Merci Jean-Baptiste. Allons mettre un morceau de musique. Vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Nous avons reçu en première partie d'émission Paul Audy et nous allons recevoir en deuxième partie d'émission Jean-Baptiste Sécheret. Musique Erwan. Bonjour, vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter par courrier au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, à la librairie Publico, émission Démo, une voix. Vous pouvez bien aussi prendre la carte d'auditeur à la librairie et sinon prendre un prélèvement de 8 euros de soutien. Alors rebonjour Jean-Baptiste Sécheret. Comme pour Palodi, je vous propose des questions d'ordre général ou biographique, puis de passer à votre livre Peinture et dessin à l'heure exacte, sorti aux éditions Les Cahiers Dessinés en 2022. Vous êtes né le 15 octobre 57 à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes peintre, illustrateur et graveur. En 76, vous rentrez aux Beaux-Arts de Paris. Vous vivez et travaillez principalement à Paris. Vous êtes un peintre figuratif. Ça vous va, figuratif ?
Oui, c'est une définition comme une autre.
Vous avez grandi entre Paris et le Pays d'Auge. Quelle attache aviez-vous en ces deux lieux ?
Alors, en fait, pour moi, c'est très précieux d'être là avec Polody, parce que on pourrait remplacer Neuilly par le Liban. Mes parents sont arrivés là, mes grands-parents sont arrivés là après la débâcle de la guerre. Ils ont acheté une maison qu'ils n'ont même pas vue dans cet endroit, que quelqu'un leur a acheté parce que c'était le bazar dans leur vie. Mais ma mère était normande de son côté et mon père était ardennais. Ardennais, on dit ardennais. Après la guerre, tous ces gens-là, bousculés, se sont retrouvés pour des raisons diverses. Du côté de ma mère, mon grand-père était un imprimeur à Rouen, et il s'est fâché avec son frère, donc il a ouvert son imprimerie à Puteaux. Donc ma mère habitait à Neuilly-sur-Seine, parce que son père avait son usine à Puteaux, et puis donc du côté de mon père, c'est ce hasard qui a fait que de la guerre qui a fait qu'ils sont arrivés là. Alors ils se sont rencontrés jeunes, parce que les jeunes se retrouvaient pour danser.
Comme tous les parents, voilà. Mes parents aussi.
Mais nos attaches en fait étaient tout le contraire. Très proche de nous, à une génération, les gens gratouillaient la terre. Et c'était très rustique, comme beaucoup de Français, en somme. Alors, je dis ça parce que récemment, mes amis d'enfance, justement dans ces lieux, étaient très étonnés que je retourne, à chaque fois que je partais en vacances, au lieu de faire ce que eux faisaient, je sais pas, ils passaient des vacances comme des vacances idéales, enfin, de carte postale. Moi, j'allais faire les foins, faire la moisson systématiquement pendant plusieurs années, à un âge où justement on a envie de faire autre chose. Et je ne sais pas si c'est une chose qui venait de loin ou de mes ancêtres, mais en tout cas, ça me plaisait beaucoup. Donc je prenais mes cartons à dessin, parce que je dessinais déjà, et mes affaires de peinture, et je me plongeais dans ces milieux. C'est eux-mêmes qui m'ont dit que ces amis donc d'enfance qui m'ont dit qu'ils étaient très étonnés des vacances que je passais.
Jeune enfant, lisiez-vous, dessiniez-vous? Comment en êtes-vous venu à la peinture?
Alors, je raconte souvent que quand on me pose cette question, j'ai eu un professeur hongrois, un professeur de dessin qui s'appelait Tibor Gertler et qui avait qui était une manière sans doute assez commune, très très pédagogue, et il nous a appris en fait la perspective en une heure, et puis une autre fois il nous a appris ce que c'était que la couleur en une autre heure. Et si on mettait à contribution les petits renseignements qu'il nous avait donnés dans cette heure précieuse, on arrivait à tout faire en fait. C'est ce que j'ai fait, moi, ça m'a fasciné, puisque je dessinais avant de le connaître, je peignais avant de le connaître, mais comme un bourrin, enfin. Et j'essayais de copier des choses, parce que dans des livres, j'avais eu un livre aussi, par rapport à ce que dit Paul tout à l'heure, mon père était féru de poésie, il en écrivait lui-même, comme tous les gens de sa génération. Il a écrit des quantités de poèmes rimbaldiens, Et donc, très tôt, il m'a offert un livre, mon premier livre de poésie, dans lequel il y avait des reproductions de peinture. Donc ça, j'ai raconte ça à l'envi, risque d'ennuyer mes amis, mais ça a été fondamental pour moi.
Il y a une copie de Corot, je crois.
Voilà, j'ai fait une copie de Corot, je vous l'avais dit, c'est la première
chose. Non, c'est marqué dans la préface.
Ah bon? Voilà, donc j'ai ennuyé Benjamin Oliven avec ça, donc ça ne lui a pas échappé, il l'a écrit, mais... oui, c'était fondamental. Donc, Van de Velde, enfin, toute la peinture hollandaise me fascinait. Et les premières choses que j'ai faites d'après nature, c'était sur la plage, à Trouville. Donc, voilà. Mais pour revenir à ce professeur, grâce lui soit rendue, parce que si on mettait en application les trois petits renseignements qu'il nous donnait, et c'est ce que j'ai fait, on devenait celui qui, vers 13 ans, tout le monde arrête de dessiner, celui qui est dessiné comme celui qui sait dessiner. Parce que c'est simplement des écarts qui se créent naturellement, vous êtes celui qui dessine, celui qui sait dessiner, celui qui se crée une réputation à laquelle vous ne croyez pas du tout, mais voilà, ça a commencé comme ça.
Merci. Alliez-vous jeune au musée? Baignez-vous dans un milieu où la peinture avait une importance? Ou est-ce par vous-même que vous êtes intéressé à la peinture, Jean-Baptiste Sécheret?
Alors non, mes parents m'ont emmené qu'une seule fois au Louvre, mais ça m'a frappé. Enfin, et alors après, quand ce professeur... ils m'ont emmené au Louvre, ils m'ont emmené dans le plus beau musée de Paris, qui était le jeu de paume. Le jeu de paume, il y avait tout l'impressionnisme était là, du début de l'impressionnisme, c'est-à-dire Jonquin et Boudin, jusqu'à Stanislas Lépine, jusqu'à Gauguin, en somme. Et je connaissais l'emplacement de chaque tableau, pour moi c'était ma maison. Et donc j'y retournais, je prenais mon métro dès que je pouvais pour aller dans ce musée.
Seul ?
Seul, oui. Et... pour moi, c'était le plus beau musée du monde. Je connaissais un peu le Louvre, mais le Louvre me paraissait énorme, monumental, et beaucoup plus vif, beaucoup plus proche de nous, en somme. C'est parce que je connaissais pas encore j'avais pas encore d'attrait pour cette peinture de David ou de Nicolas Poussin. Ça me paraissait très formel, un peu sévère. Et c'est que quelques années plus tard que j'ai découvert ces peintures. Voilà.
Qu'avez-vous appris aux Beaux-Arts? Pourquoi avez-vous voulu y aller? Est-ce que cette formation, entre guillemets, a répondu à vos attentes?
Oui, alors en fait, mes parents, comme j'aimais bien les petits animaux, j'allais donc à la campagne, ils voulaient faire de moi un vétérinaire, je me laissais faire, et je me suis arrangé pour rater mon bac D scientifique en beauté. Et donc l'année suivante, le jour où j'ai appris que j'avais raté mon bac, c'était le plus beau jour de ma vie parce que je savais que j'allais rentrer aux Beaux-Arts. Donc j'ai repassé.
T'es convenu avec eux ?
Non, mais disons, j'étais tellement mauvais en maths physique que, enfin surtout, oui c'est ça, en maths j'étais pas vraiment bon et ça m'attirait pas du tout. Mais j'ai fait une terminale philo, donc je suis passé en A. Avec option dessin, mais ça n'empêche que je suis passé en A. La première année, quand j'étais en D, j'ai eu 20 à mon bac dessin. Ça ne m'a pas suffi pour que j'obtienne le bac. Mais la deuxième année, j'ai eu 19. Donc je trouvais que c'était heureusement que j'avais réussi mon bac, parce que si j'avais encore raté, j'aurais eu 18, 17, enfin j'aurais régressé au fur et à mesure des années. Donc je rentre aux Beaux-Arts à ce moment-là, mais voilà, le jour où j'apprends que je rate le bac en D, je savais que j'allais faire les Beaux-Arts. Mes parents étaient d'accord, parce que je peignais beaucoup, et donc ils m'ont accompagné, ils m'ont quand même aidé.
Voilà. Ah oui, parce qu'il faut l'accord des parents à cet âge-là.
Ouais, ils faisaient un peu grise mine, je dois dire, mais ils auraient préféré que je sois vétérinaire. Oui.
Vous êtes pensionnaire à la Casa de Velázquez de 84 à 86. Qu'est-ce que ce pensionnat vous a apporté?
Ben ça nous apporte ce qu'on y met, en fait. On est nos propres maîtres. C'est surtout à l'école qu'on apprend des choses. Une fois qu'on est là-bas, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est une vraie liberté. Et puis, je connaissais déjà un peu l'Espagne, où j'avais passé des longs séjours. Et pour moi, c'était un pays de cocagne, quoi. Non seulement pour les paysages, la vie à Madrid.
Et tous les musées de Madrid.
Et évidemment, tous les musées de Madrid, ceux de province comme de Madrid. Si vous allez à Tolède, si vous allez à l'Escurial, c'est un enchant. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Et puis, voilà, là-bas, j'ai eu une espèce de liberté. C'est-à-dire que j'avais un marchand à ce moment-là qui d'ailleurs est venu me retrouver à Madrid. Il était très content de retrouver cette ville qu'il connaissait bien. Et quand... Alors moi, je faisais des tas d'expériences qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce que lui me vendait, c'est-à-dire des grands paysages qui n'étaient pas des cartes postales géantes, mais qui pouvaient faire penser à ça un peu. Et puis dans des carnets, j'avais des choses un peu précieuses, enfin des natures mortes plus modestes. Et lui, ça ne l'a pas du tout intéressé. Il regardait ça très vite, mais il voulait ces grandes choses qu'il vendait. Et donc, ma peinture a beaucoup changé à ce moment-là. J'ai fait des natures mortes, j'ai agrandi l'échelle des objets. Et puis, j'étais fasciné par, évidemment, Zurbaran, Ribera et Velázquez et Goya, évidemment. Mais donc, tous les thèmes sont... Tous mes thèmes étaient ceux-là. Des choses qui ne sont pas jolies... forcément joli, des poissons morts, etc. Oui. Et puis j'ai fini par faire aussi beaucoup d'objets métalliques avec tout ce que ça suppose de reflets, de détails magnifiques. Si on veut s'y coller, on peut faire des choses sans fin. Enfin. Et puis aussi très géométrique. Et ça, j'aimais bien insérer la géométrie dans le rectangle, la convention du rectangle dans lequel on dessine ou peint.
Vous aviez à mettre, entre guillemets, selon Internet. Vous savez que vous êtes à Radio Libertaire, dont le slogan est Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître. Je vais vous demander de parler un peu de Jean-François Debord, que vous admirez, je pense.
Ah oui, oui. Jean-François Debord, c'était un mythe pour nous. Et puis, c'était une des personnes les plus drôles de l'école. Il avait une manière d'enseigner absolument magnifique, très pédagogique, l'anatomie. Et ça a été une vraie ouverture d'esprit, un vrai rire. Il n'était pas du tout suivi dans ses plaisanteries. Mais moi, j'aimais vraiment beaucoup Jean-François Debord. Et puis, c'était un peintre dont on ne voyait pas la peinture. C'était un mythe aussi pour ça. Parce que tous les autres professeurs de l'école montraient complaisamment ce qu'ils faisaient. Ils convoquaient les élèves, et les élèves accouraient pour voir leurs tableaux, les tableaux de leur maître, et puis après, ils faisaient la même chose que leur maître. Vous savez, je crois que Matisse a ouvert une école de dessin qu'il a fermée au bout d'un an, parce que tout le monde venait faire du sous-Matisse. Et alors Jean-François Debord... grâce lui soit rendue, c'était un très très bon peintre. En plus, quand on a découvert sa peinture, c'était enfin le mythe se découvrait. Mais j'ai eu aussi la chance de rencontrer Pierre Faure, qui a fait de nous en fait des autodidactes, parce que justement son travail était invisible. Il l'est toujours, hein, mais c'est comme avoir rencontré Georges Seurat. Voilà, si vous voyez là, qui est Georges Seurat, ça doit avoir été le contemporain essentiel, c'était Pierre Faure pour moi. Sa peinture, elle est une des plus belles à l'heure actuelle. Elle restera longtemps, longtemps une des plus belles. Voilà, il nous disait plus ce qu'il fallait éviter de faire plutôt que ce qu'il fallait faire. Ça déjà, c'est déjà un grand cadeau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Je passe à la question d'après. Vous avez enseigné les arts et les techniques de la représentation à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Pourquoi? Qu'avez-vous à transmettre? Une certaine idée de la peinture?
Écoutez, pourquoi je ne sais pas. Ce sont des amis qui m'ont proposé ce poste d'enseignant. J'avais un marchand qui me faisait vivre, donc je n'avais pas de raison vraiment d'être professeur, mais j'avais une espèce d'inquiétude sur l'avenir. Donc je me suis dit, on va essayer d'assurer un peu les arrières. C'est le côté de bourgeois de ma famille qui était aussi un peu inquiet. Il craignait que la peinture ne suffise pas. Bien m'en a pris du reste, parce que j'étais engagé dans cette école et 2 ans après, mon marchand est mort. Et ça a été un passage très compliqué pour nous, pour moi. Il s'agissait d'Antoine Mandira qui dirigeait la galerie Berggruen, qui a été le plus grand marchand, enfin pour nous, mais à Paris, c'était un des plus grands marchands. C'était une chance extraordinaire d'avoir eu 4 ans à travailler avec lui, quoi. Donc je suis arrivé dans une école où il y avait un nid d'enseignants qui étaient tous des puits de science. Je savais pas que le premier cours, les élèves avaient 10 ans de moins que moi. Enfin, je tremblais autant qu'eux. Finalement, je me suis rendu compte que dans cette école, on faisait et on pouvait faire une école des beaux-arts dans l'école d'architecture. Et je me suis employé à faire ça pendant 23 ans, et on a eu quelques résultats absolument extraordinaires. On a rempli notre contrat. Au lieu que les cours durent de 15 à 18 heures, moi je les faisais durer de midi à 21h30, 23h quelquefois. Donc on remballait les affaires, mais les élèves avaient réellement fait de la peinture plutôt que de s'être amusés à faire, je sais pas, du soutien en art plastique, voilà, en quelque sorte.
Vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Nous allons mettre un morceau de musique. Musique, Erwan. Thank you. Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Nous avons reçu Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. En première partie d'émission, nous avons reçu Paul Audy. En deuxième partie d'émission, nous recevons Jean-Baptiste Sécheret pour son livre « Peinture et dessin à l'heure exacte », sorti aux éditions Les Cahiers Dessinés en 2022. C'est un peu une rétrospective, ce livre, Jean-Baptiste.
En quelque sorte, oui. J'ai fait beaucoup d'autres choses, mais ça balaye quand même pas mal de choses. C'est ce que disait Frédéric Pajac quand il a vu, il a dit c'est le travail d'une vie. Alors, oui, d'une certaine manière, oui.
Il y a des dessins jeunes, par exemple, dedans.
J'en ai d'encore plus jeunes, mais il en a pris des premières années aux Beaux-Arts, oui. Modèles vivants, quelques-uns.
Avant de commencer une toile, le cadrage, les couleurs, comment cela vous vient-il? Pensez-vous qu'un peintre, c'est sa palette, comme les impressionnistes?
Oui, on a une palette, bien sûr. C'est vrai qu'on peut déterminer quelle était celle de Cézanne, par exemple. Mais on les retrouve curieusement, par exemple pour Cézanne, on les retrouve curieusement chez Delacroix. Donc si on les retrouve chez Delacroix, on les retrouve aussi chez Rubens. Vous voyez, et c'est quand même des choses qui se retrouvent de siècle en siècle. Un peu pas inévitable, mais
c'est par rapport au pigment.
Oui, bien sûr. Bon, évidemment, au Moyen-Âge, on ne peint pas de la même manière. Avant l'invention de la peinture à l'huile, on a beaucoup moins de possibilités, beaucoup moins de nuances. Et puis, c'est beaucoup plus cher. Obtenir des bleus, l'histoire du bleu, c'est une longue histoire. Donc, c'est comme les routes de la soie. Les gens puissants avaient de la couleur. Les seuls moments où on voyait la couleur dans les temps passés, c'était quand vous voyez un drapeau ou un soldat. Ou alors un vielleux, quelqu'un qui se promène dans la campagne et qui attire le monde pour faire un peu de musique. C'est le seul moment, à part l'église et les vitraux, où on voyait de la couleur. Donc les soldats et la religion. C'était dans ces moments-là que sinon les gens étaient habillés en brun et habitaient dans des endroits sombres. Ils avaient des draps blancs, des tissus en lin. Voilà, ça c'était les couleurs générales du monde entier.
Comment est-ce qu'on soit une toile chez vous? C'est le paysage qui s'impose, vous cherchez un paysage et quand une vue vous plaît, vous vous lancez, c'est selon vos déplacements, etc. Pouvez-vous nous expliquer cela?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un peu sur les lieux où je vais. Quand je vois comment la lumière tombe sur certaines choses, c'est très heureux. Donc, j'ai des cesse que de retrouver cette lumière ou si j'ai mon matériel avec moi, de commencer à travailler. La composition est vraiment importante. Alors j'ai ma grande fille Aurélie qui, elle, a fait un voyage aux États-Unis. Elle est montée par hasard dans une grande tour à côté de Central Park et elle a vu un paysage. Elle était fascinée, comme elle connaît bien son papa et sa manière de construire. Elle a pris une photo et là, pour le coup, voilà, nous revoilà à la photo. J'ai fait un grand tableau avec cette vilaine photocopie que j'ai fait d'après un cliché d'Aurélie. Et depuis, en fait, j'y suis retourné. Je suis allé dans cet endroit grâce à elle, parce qu'elle avait quelqu'un qu'elle connaissait dans ses étages élevés. Et je suis devenu... c'était New York, alors ça impressionne tout le monde. Ouais, il est allé à New York, mais je n'ai rien de New York. C'était vraiment des hasards qui m'ont fait aller là-bas quelquefois 10 jours. J'ai fait des pastels et des peintures à l'huile sur place. Et c'est avec ces choses-là que j'ai finalement, à la suite de cette image de ma fille Aurélie, que j'ai fait toute une série. J'en suis à peu près à 12 tableaux, 12 grands formats qui représentent ce sujet.
Vous avez une exposition donc avec cette toile?
J'en ai fait une, oui, où il y en avait 6, 7, il y a quelques années, oui. C'était la colonne vertébrale de cette exposition. J'en avais des plus petits formats, mais il y avait 6 ou 7 grands formats. Oui.
Comment se répartissent vos tâches de peintre, illustrateur et graveur? Comment les séparez-vous? En quoi diffèrent-elles? Pourquoi choisir une technique plutôt qu'une autre?
Ça, c'est
Comment choisir la technique? C'est la découverte au fur et à mesure que le temps a passé. Et puis quand j'étais aux Beaux-Arts, et puis un peu après, découvrir qu'on peut utiliser travailler sur des petits formats, travailler en estampes, c'est pas du tout la même optique. Et en même temps, on salive, ces techniques sont tellement extraordinaires à pratiquer qu'on peut pas s'empêcher de saliver. C'est faire des monotypes, c'est très extraordinaire. Vous avez sur une surface lisse de métallique ou un verre, vous avez la liberté fluide d'un pinceau, et tout le mouvement du pinceau va se reproduire, va être transcrit sur le papier à plat, ce que vous ne pourriez pas faire sur un papier, parce que le papier, en frottant sur un papier, vous allez entraîner des pluches, le papier est plus ou moins lisse, donc cette porosité fait que c'est gênant. Mais alors que si, quand c'est saisi avec le monotype, d'abord vous avez un grand grand plaisir à peindre sur une plaque, et ensuite le résultat est toujours toujours miraculeux. Enfin, c'est beaucoup de hasard, et j'aime beaucoup le hasard. Quand le hasard s'inscrit dans la manière de travailler, il faut l'intégrer, il faut pas lutter contre. Vous parliez de mimicis, Paul, mais il faut savoir baisser la garde, et à accepter que, non seulement accepter, mais l'intégrer comme une force. C'est pour ça que dans la peinture, alors je réponds plus à votre question parce que je vais m'égarer en vous parlant de la peinture abstraite, mais la peinture abstraite, pour moi, quand elle est faite par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, ça peut devenir des choses extraordinaires. Donc ça a à voir avec l'art asiatique, la tache de couleur sur du papier, ça se dépose de manière totalement involontaire. Vous n'avez été que finalement le vecteur d'un geste le plus lointain possible. Et voilà, c'est Simon Taille dont je voulais vous parler. Le hasard absolu dans Simon Taille, même s'il a des techniques que je ne veux même pas connaître, qui intéressent tout le monde de manière anecdotique, il n'en reste pas moins que le hasard de sa peinture fait un résultat totalement miraculeux. Et qui, moi, m'émeut autant qu'une peinture de Terborch ou de Vuillard.
Ben justement, quel peintre aimez-vous ? En fait, ça, c'est comme les écrivains, je pose toujours la question, quels sont les contemporains que vous aimez bien ?
Les contemporains, j'en aime beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. La peinture va très bien, en fait. Il y a une longue liste, je ne vais pas pouvoir vous les grainer là, maintenant, mais... dans le passé proche, enfin, disons dans celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, Pierre Faure, pour moi, c'est vraiment fondamental. Il a énormément de qualités, de toutes celles qu'on adore dans la peinture. Quand il les a toutes, à mon sens, il les a vraiment toutes. Mais il y a un Espagnol qui est de la même génération, qui est encore vivant, qui s'appelle Antonio López García, qui est vraiment un exemple et pour moi incontournable. Tout proche, qui est mort il y a quelques années, Sam Safran, c'est une œuvre qu'on n'a jamais vue, on n'a jamais vu ça. Et pourtant, ça rappelle, comme je dis souvent, plein de bons souvenirs, mais c'est un immense peintre, c'est une exposition qui a lieu en ce moment à l'Orangerie des Tuileries, mais c'est bouleversant, il faut y courir. C'est vraiment... voilà, pour ceux que j'aime, par exemple, en voilà trois.
D'accord. Y a-t-il des courants picturaux que vous préférez ? Les impressionnistes, par exemple, qui peignent le paysage, que vous aimez bien, ou vous pensez que ça s'inscrit dans l'histoire normalement, sans plus
Non, ça, c'est... Ouais, j'adore les impressionnistes. Alors vous, comment dire, une reconnaissance, vraiment, je leur dois beaucoup, quoi. C'est une peinture très, très vivante, très... proche de nous, mais je rappelle souvent que dans les années 80-90, et ça continue encore à l'heure actuelle, c'est de bon ton de dire que les impressionnistes sont bas de plafond. Je l'ai lu, ça. Pour moi, c'est la peinture la plus raffinée qu'on puisse espérer au 19e siècle, après celle de Courbet. Vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi. Mais ça faisait partie des... Quand on écoute la critique ou qu'on lit l'histoire de l'art, il y a toujours eu des confusions comme ça dans l'appréciation des choses. Mais j'adore les impressionnistes. Donc il y a une part de la peinture que j'adore aussi, qui est très peu enseignée, mais que les impressionnistes connaissaient parfaitement. Van Gogh la connaissait parfaitement. Il était marchand de tableau lui-même à une époque. Ils étaient vraiment des gens très, très renseignés sur ce qu'était la peinture. Vous avez cette peinture qui va européenne, qui va de 1780 à 1840, par exemple. C'est absolument pas enseigné. Mais bon, c'est plein de gens qui voyageaient, que ce soit au Danemark, en Allemagne, en Angleterre, qui évidemment allaient se frotter à Rome, en Italie. Et le résultat, cette petite peinture, soi-disant petite peinture, elle est une des choses que je préfère. Mais j'aime toute la peinture, en fait. Et quand j'aime autant le Fayoum que, je sais pas, que des enluminures du Moyen-Âge, que des choses faites au Japon il y a 400 ans. Enfin, voilà. Et la sculpture, c'est encore un autre monde, mais
on n'a pas parlé de la sculpture.
Ben, la sculpture, pour moi, la sculpture, c'est... Il faut regarder ce qui s'est passé en Afrique aussi. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé en Afrique. C'est une des plus belles choses, c'est la sculpture. La peinture, elle a mal vécu, donc on en voit très peu, mais on en voit des quelques résidus qui nous donnent à penser que ça devait être extraordinaire. La sculpture africaine, c'est même la sculpture en bois qui nous reste, la manière dont la peinture est déposée sur le bois d'ébène, par exemple, c'est aussi important que ce que peut faire Braque un peu plus tard. Du reste, Braque dit, je crois que c'est lui qui dit ça, j'ai plus appris en peinture en regardant un marin repeindre sa barque, donc lui il est de Normandie, qu'à l'école, qu'en prenant des cours à l'école.
Vous voyez, Jean-Baptiste Sécheret, le temps est déjà imparti. Je vous propose que j'ai pas le temps de poser toutes les questions, parce qu'on n'a pas encore parlé du livre. On va se lancer dans une improvisation. Vous présentiez ce livre, pour si jamais ça peut intéresser un auditeur, qu'il aborde votre œuvre concrètement. Et, de toute façon, en tapant votre nom sur Internet, on trouve des toiles.
Ce livre, pour moi, dans ma vie, c'est un événement, mais je ne suis pas le seul qui pourrait dire ça, parce qu'il s'agit de Frédéric Pajac, qui fait tout ce que moi j'ai rêvé de faire dans ma vie, c'est-à-dire... Il travaille pour la corporation avec un éclectisme que jamais on a vu. Il a la chance d'avoir les moyens de faire ça par ses amis. Et donc ça, il fait des éditions, il fait des expositions. Bon, jamais personne n'a fait ça en dehors du circuit avec autant de générosité et de ténacité dans le circuit officiel, si vous voulez.
Son, il va faire au printemps un salon du dessin où il habite.
À Arles, oui. Oui, ça aussi, c'est un énorme travail pour lui.
Ça a signalé, puisque ce sera en dehors de ce qui se passe tous les étés à Arles.
Oui.
Et ce sera vraiment indépendant, quoi.
Oui. Il travaille à ça. Il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler à ça. Ça va être un événement qui va durer peu de temps, qui va durer 3 semaines, mais ce sera intense, oui. Ce sera très dense. Il fallait que je parle...
Le livre, oui.
Non, avant, il fallait que je parle...
Ah oui, il a présenté la musique, oui, quand même.
la musique, c'est donc... les deux musiques que vous avez entendues, c'était un sextuor que mon fils Émile Sécheret a écrit il y a quelques années et qu'il a joué au Festival de musique de chambre à la Salle Cortot, grâce à Jérôme Pernaud, et qu'il a invité à jouer son Freshly Composed. Donc, grâce lui soit rendue aussi à cet immense violoncelliste et grand pédagogue. Et Émile aussi, ce que vous avez entendu au piano, ce sont des pièces faites d'après, c'est pas un tableau d'une exposition, mais c'est un peu ça, c'est un concours qu'il a raté, et les commanditaires du concours lui ont demandé, pas comme notre consolation, mais comme un honneur, un signe, de faire 7 pièces de musique sur les 7 tableaux d'un ami qui est rentré au Beaux-Arts avec moi, qui s'appelle Jean-Michel Baquet, qui est un des plus grands peintres à l'heure actuelle, paysagiste, il a fait des... voilà, c'est une œuvre absolument considérable et tenace, et il habite à Flayosque et à Conques. Donc il a fait des choses extraordinaires, et mon fils Émile a écrit 7 pièces de musique d'après 7 tableaux de Jean-Michel Baquet.
D'accord, et le livre, encore quelques mots...
Sur le livre, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
C'est vous qui avez tout choisi
Non, on a tout fait avec Frédéric. On était au coude à coude à côté des ordinateurs avec toutes les images qu'on avait collectées. Ensuite, je suis allé chez le photograveur à Lausanne. Je suis allé dans le Tessin avec Frédéric pour le tirage lui-même sur les machines. J'adore. Mon grand-père était imprimeur, donc c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et puis, les imprimeurs sont très heureux d'avoir affaire à des gens concrets quand ils impriment quelque chose. Donc là, c'était un grand moment. Voilà, on a tout fait. On a tout fait avec Frédéric.
D'accord. Ben, ce sera le mot de la fin. Au revoir, Paul Audy.
Merci, Thierry.
Au revoir, Jean-Baptiste Sécheret.
Merci beaucoup, Thierry.
Vous avez écouté l'émission Des mots, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter à l'adresse par courrier au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement à Paris, à la librairie Publico, émission Des mots, une voix. Et nous vous souhaitons de bonnes fêtes, quoique c'est un moment que j'aime pas trop. Et en même temps, nous vous disons pas au mois de janvier, parce qu'il n'y aura pas d'émission en janvier. Nous vous disons en février où je dois recevoir pressenti Hubert Haddad. À très bientôt, au revoir.